Puis on va aller dans Hébreux chapitre 9, versets 1 à 10. Hébreux chapitre 9, versets 1 à 10. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposé seulement jusqu'à une époque de réformation. J'avoue que lire l'Épître aux Hébreux, si on n'a pas fait au préalable une étude un petit peu approfondie, du moins sommaire, de l'Exode, du tabernacle, on peut avoir difficulté à comprendre. Mais la beauté des Écritures, c'est qu'elle est tellement riche qu'il faut passer du temps à les étudier, parce que plus on les étudie, plus on est récompensé dans notre étude. Alors aujourd'hui, la leçon que je vais donner va s'appeler, le titre va être « Le tabernacle terrestre, un pédagogue vers Christ ». Alors on sait tous c'est quoi un pédagogue. C'est un pédagogue, on a des pédagogues ici dans l'Assemblée, des professeurs. Donc un pédagogue, c'est un professeur. Qu'est-ce que cette chose-là symbolisait? Ça voulait nous enseigner des choses sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Donc là, on va regarder les choses sous trois angles différents. Un pédagogue vers Christ dans son œuvre, versets 1 à 5. Un pédagogue vers Christ dans sa personne, versets 6 et 7. Et un pédagogue vers Christ dans sa singularité, versets 8 à 10. Pour bien saisir l'importance du tabernacle terrestre du système sacrificiel judaïque, nous devons méditer au fait suivant. Le Seigneur a pris 7 jours pour terminer la création. Et n'importe qui a un petit peu de connaissance sur l'astronomie sait jusqu'à quel point c'est grand ce que le Seigneur a créé. Ça a pris 7 jours. Il en a pris 40 sur la montagne pour expliquer à Moïse tous les détails du tabernacle. D'après vous, c'est-tu significatif? Très significatif, parce que ça parlait de l'œuvre future de son fils qui était pour venir sur la terre. Alors les détails, il fallait que les symboles soient puissants, soient forts et qu'ils ne soient pas mêlés avec des affaires d'hommes. Un peu comme le dernier temple, il avait changé de dimension, il y avait peut-être toutes les choses. J'ai jamais étudié en profondeur une comparaison du premier tabernacle avec les trois temples, mais je suis absolument certain que quelqu'un qui ferait ça serait richement béni, parce que dans toutes ces choses-là, il y a tellement d'indications sur comment le peuple d'Israël voyait les choses et comment, en changeant les choses que Dieu donne, tu fais toujours des erreurs. Donc, il en a pris 7 pour la création, qui est énorme, il en a pris 40 pour expliquer à Moïse le tabernacle. Pourquoi il en a pris 40? Parce que c'était important qu'il donne les choses correctement. Ça n'a pas été construit. Ça ici, c'est un modèle qui a été reproduit par des hommes qui ont étudié en profondeur les passages d'Exode 25 à 40. Et ils ont bâti quelque chose qui croit que ça ressemblait à ça. Ils ont vraiment tenu compte des dimensions et tout ça. Puisque les Écritures nous disent ici dans le verset 9 que c'était une figure, on peut dire le mot symbole. Toutes ces choses-là symbolisaient une partie ou une autre, soit de la personne, soit de l'œuvre de Jésus-Christ. On a parlé de la conception d'un type. fait au moins 5 fois, je vous le dis, il faudrait que je vous pose une petite question le matin. Qu'est-ce que ça prend pour que ça soit qu'un type soit respecté? On va refaire la publicité, hein? Force de rentrer, on finit par retenir. Puisque le tabernacle terrestre était un type de Christ, il est nécessaire de rappeler ici les critères nécessaires pour qu'il y ait un type biblique. Première, les types sont des personnes, des événements ou des choses. C'est la première. Deuxième, il fallait que ça soit dans l'Ancien Testament. Troisièmement, il faut que ça ait une réalité historique. Il faut que les Écritures nous disent que ça a eu lieu dans le temps et dans l'espace. Quatrièmement, il fallait que ça contienne une intention divine d'enseigner. Et les Écritures nous le disent dans le Nouveau Testament, nous le confirment que c'était dans le but d'enseigner des choses concernant Jésus-Christ. Cinquième chose, il fallait que ça contienne un élément prophétique ou préfigurant. Ça préfigurait quelque chose sur la personne et l'œuvre de Christ. Et sixièmement, il faut que ça trouve son accomplissement par quelque chose de plus grand et de supérieur ou dans le Nouveau Testament. Et il faut que ça soit désigné comme tel dans le Nouveau Testament. Est-ce que cette partie-là rencontre toutes ces choses-là? Sans aucune hésitation, je vous dis oui. Alors, on a un type. On a dit que quand on avait un type, c'était des choses qui pointaient, qui enseignaient sur Jésus-Christ. Et l'accomplissement, c'est l'antitype. Alors, peu importe qu'on prenne une personne dans l'Ancien Testament, un événement ou une chose, ça pointe, l'accomplissement se fait toujours dans le Nouveau Testament et ça s'accomplit toujours dans la personne de Jésus-Christ. Ça, il n'y a pas dur à retenir. Les types, il y a plusieurs choses à retenir, mais l'antitype, c'est qui? Jésus-Christ. Alors, on doit se souvenir que l'antitype est toujours la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il était impératif pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux de répondre à une objection que les Juifs attachés au judaïsme amenaient aux nouveaux croyants. Et l'objection est à la suivante. Pourquoi Dieu commanderait-il d'annuler les lois cérémonielles de sacrifice d'animaux de l'Ancienne Alliance alors que c'était lui-même qui les avait instituées? Voyez-vous, dans leur tête, là, c'était, ça fait 1500 ans que ça existe, tu es en train de nous dire qu'il faut arrêter ça, il faut remplacer ça, c'est cancellé, c'est annulé, on le remplace par quelque chose. Mais eux autres, ils disaient, pourquoi Dieu demanderait-il d'annuler des lois cérémonielles de l'Ancienne Alliance alors que c'était lui-même Dieu qui avait inventé ces choses-là? Alors, les Juifs attachés au judaïsme échouaient lamentablement dans leur perception de la signification et de la valeur du système sacrificiel incarné dans le tabernacle et ses objets, dans le rôle des sacrificateurs, dans le rôle du souverain sacrificateur et des sacrifices d'animaux. Ils ne percevaient pas que toutes ces choses avaient une valeur pédagogique et qu'ils étaient des ombres, des figures, des symboles de l'œuvre du Messie à venir. Si vous prenez l'Épître aux Hébreux, puis vous regardez le nombre de fois que le mot « ombre », « symbole », c'est des ombres, des symboles, des figures. Lorsque le Messie put arriver sur la terre et qu'il eut parfaitement accompli tout ce symbolisme, il était maintenant temps d'abandonner ce système parce qu'il était annulé et obsolète et qu'il se devait d'être remplacé. Le système de l'Ancienne Alliance était temporaire, transitoire et préparatoire. Ça avait eu une fonction, mais pour une époque précise. Maintenant que Christ est venu, c'est plus bon. On change. Alors, Jésus-Christ était l'antitype et avait matérialisé tout ce symbolisme. Il était la substance et non l'ombre des choses. Moi, j'aime bien l'image de la photo avec la personne. Supposons qu'un gars, il rencontre une femme sur Internet, puis ils discutent des années ensemble, puis ils viennent, ils se connaissent, ils sont tous racontés le jour complet. Puis là, ils sont déjà en amour, mais ils ne se sont jamais vus, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont envoyés une photo l'un à l'autre. Et là, ils rêvent. Ça, c'est la photo, c'est une ombre, c'est pas la substance. Si la fille à l'autre bout dit « Oh, j'ai de l'argent, je m'en vais à... » Disons que le gars vient de Montréal. « M'en vais à Montréal, t'as rencontré. » Puis la fille arriverait, puis le gars dirait « Non, 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 j'aime mieux ta photo. » bien mieux ta photo que toi. C'était un peu l'équivalent. C'était qu'eux s'attachaient à des symboles. Et quand on a la substance arrive, donc, si la fille avec qui est en relation arrive, bien, la photo peut être pratique comme souvenir, mais s'occupe de la personne, hein, tu ne t'occupes plus de la photo. C'est exactement un peu une chose semblable qui était à l'époque. Le premier point qu'on va regarder, versets 1 à 5, c'est un pédagogue qui pointait vers Christ dans son œuvre. On va voir le deuxième point, ça va être dans sa personne. L'œuvre et la personne, on distingue. La sagesse de l'auteur de l'Épître aux Hébreux est manifeste dans son traitement de la signification du tabernacle. Il ne cherche pas à le dénigrer, mais à en faire saisir sa raison d'être et son symbolisme pour la personne de l'œuvre de Jésus-Christ. Si l'auteur de l'Épître aux Hébreux aurait commencé à vouloir dénigrer le tabernacle devant un juif, là, ça passe à pas. C'était le but, c'était pas de démontrer que ça valait rien. C'est vrai que ça valait plus rien, mais c'était pas très habile de dire ça comme ça. Fallait que tu prennes l'ancien système et que tu démontres que toutes ces choses-là pointaient, symbolisaient Jésus-Christ. C'est ça qu'il a fait, de façon très habile, de façon à ce que les Juifs comprennent enfin ce qu'il voulait dire. Donc, c'était une pédagogie qui était divine, verset 1. Hébreux 9, 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Remarquez les deux mots importants là-dedans. Tu as le mot culte, puis tu as le mot sanctuaire, mais il ne parle pas du temple de l'époque, le temple d'Hérode, qu'on a vu, le troisième gros temple, là, que ça avait pris 46 ans aux Romains et aux Juifs de construire cet immense édifice. Nous, aujourd'hui, on n'a pas aucune idée jusqu'à quel point c'était gros, cette affaire-là. C'était énorme. C'était un énorme bâtiment qui avait pris 46 ans à construire. C'est vrai qu'il n'y avait pas les mêmes outils qu'aujourd'hui, mais quand même, prendre 46 ans pour construire quelque chose de cette ampleur-là, il fallait que ce soit quelque chose de très grand. Donc, on a le sanctuaire terrestre. Ici, c'est bien évident qu'il parle du premier tabernacle par la description, parce qu'il parle de quelque chose de terrestre. Quoique le temple d'Hérode était aussi terrestre. On va le voir tantôt. Donc, le mot culte. Le mot culte, c'est de quelle façon on rentre en relation avec Dieu. Donc, c'est le mot grec « latreas » qui est traduit ici par « culte », puis on aurait pu traduire aussi « service divin ». Le service divin, ça ne devait pas être fait n'importe comment. Il y avait des règles précises. Les sacrificateurs pouvaient faire certaines choses, le souverain sacrificateur pouvait faire certaines autres choses, et c'était tout encadré, le Seigneur avait tout donné ses lois, et tout donné ses choses concernant ces choses-là. Donc, l'auteur rappelle que le tabernacle était une institution divine. Il n'est pas en train de vous dire, votre affaire, ça ouvre, ça ne tient pas de bout. Il est en train de leur dire, oui, c'est une institution divine, mais il faut que vous compreniez pourquoi ça a été créé, dans quel but. Elle avait été créée avec une grande sagesse pour enseigner les choses sur le Messie à venir et préparer les esprits. Cependant, le mot « terrestre » avait pour but de rappeler que la pratique de sacrifice d'animaux était temporaire jusqu'à la venue et à l'accomplissement par Christ lui-même de tout ce que ces choses enseignaient. Le système avait duré 1500 ans. Il était maintenant temps de le remplacer à cause de l'œuvre de Christ et de sa personne qui avait maintenant accompli toutes ces choses-là qui étaient des symboles. Versets 2 à 4, on voit la pédagogie symbolique. Donc, la première chose, il leur rappelle que oui, ça avait été institué par Dieu lui-même. La deuxième, il dit un tabernacle. Voyez-vous, il dit pas, il parle pas. Ce qui est curieux, c'est qu'on était à l'époque de Jésus-Christ. Et si tu te prenais dans Jérusalem, le tabernacle n'était plus là, là, avec des tapis et tout ça, comme on a vu tantôt. C'était le gros temple. Pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne cherche pas, il ramène à l'époque de l'Exode, pour montrer que c'est Dieu le Père lui-même qui avait donné tous les détails concernant ces choses-là. Il dit, un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Ça correspond aussi à ce qu'on a vu tantôt? Oui. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, les tables de l'Alliance. Il est à remarquer que l'auteur ne rappelle pas ici deux éléments importants du tabernacle. Voyez-vous, il fait ça, mais il ne rappelle pas deux éléments qu'on a vus tantôt. Il ne rappelle pas l'autel d'airain, qui représente la justification. Parce que, pourquoi? Parce que Christ était déjà au ciel et la justification était déjà accomplie. Il n'en parle pas parce que c'est déjà fait. Et il ne parle pas de la cuve d'airain non plus, la sanctification. Donc, Christ a accompli la loi à notre place. La sanctification était aussi accomplie parce qu'il était maintenant rendu au ciel. La raison que l'auteur s'apprête à démontrer la partie de l'œuvre de Christ après sa mort. L'autel d'airain symbolise le jugement de nos péchés par le feu. C'est Christ acceptant de subir volontairement notre châtiment à notre place, lui qui était absolument sans péché. Il a été notre substitut pour la punition qui aurait dû être la nôtre. Il a été notre représentant, ce que les Écritures appellent le second Adam. Le premier, il a manqué son coup, comme on dit. Le deuxième, c'était Jésus, lui, il n'a pas manqué son coup. Ce que le Père exigeait, il l'a tout accompli. Et il l'a accompli, mais pour nous. Donc, il y avait l'aspect de la loi qu'on appelle les préceptes de la loi, des exigences que Dieu voulait qu'on vive. Et il y avait aussi une punition qui était rattachée à toute désobéissance de la loi. Il a accompli les deux. La justification, c'est qu'il a accepté de subir notre châtiment à notre place. Et la sanctification, c'est qu'il a accompli à la perfection les exigences que Dieu avait sur nous quant à l'accomplissement qu'on doit faire du décalogue, des 10 commandements à la perfection. Quand on comprend ça, il n'y a aucun de nous qui a jamais, et personne n'est capable d'accomplir la loi à la perfection. Il y en a juste un qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. Et ça a toujours été par substitution. Le salut, c'est une question de substitution. C'est substitué à nous pour la punition, puis c'est substitué à nous pour l'accomplissement des choses que Dieu exigeait. C'est tellement merveilleux. La cuve d'airain symbolise la vie parfaite de Christ comme homme. Encore une fois, il l'a fait substitutivement à notre place et comme notre représentant. C'est le symbole de la sanctification positionnelle et de la sanctification progressive. On ne rentrera pas trop dans les détails de ça ce matin. Positionnel, ça veut dire que Christ ayant accompli à la perfection la loi de Dieu, Dieu met ça sur notre compte, comme si toute notre vie, si on avait accompli la loi. Progressive, ça veut dire qu'après qu'on est sauvé, on a encore notre vieille nature, on est encore porté à pécher. Et progressive, c'est qu'il nous a donné l'Esprit de Dieu. Et qu'à cause qu'on a l'esprit, maintenant, on est capable d'avoir plus de victoires sur le péché. Progressif, ça dit que normalement, le mal devrait avoir de moins en moins de place dans notre vie. Il y a une progression, ça le dit, sanctification progressive. La signification des éléments contenus dans le tabernacle lui-même. Donc, tu avais le lieu saint, le chandelier d'or. Si vous venez tout à l'heure, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde » dans Jean 8, 12. La table des pains de proposition, la table et les pains de proposition, Jésus a dit « Je suis le pain de vie » dans Jean 6, verset 35. On est parti dans le saint. On s'en va maintenant dans le saint des saints. Dans le saint des saints, dans les versions Darby, Martin, Osterval et King James, le mot apparaissant au verset 4 est « encensoir d'or » pour les versions françaises et « golden censer » pour les versions anglais King James. Si vous allez... Quand ça nous dit, renfermant dans le verset 4, renfermant l'autel d'or pour les parfums, ça nous dit que l'autel d'or était situé dans la partie Saint des Saints. Est-ce que c'est ça qu'on a appris quand on a fait l'autel d'or était dans le Saint, il n'était pas dans le Saint des Saints. Alors pourquoi la difficulté d'interprétation du verset 4 vient du fait que certaines versions, dont la Louis II, ont traduit « autel d'or ». Le problème, c'est que si tu dis que l'autel d'or est dans le Saint des Saints, là, tu es en train de contredire ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Mais si tu traduis « golden censer », puis il y a quatre versions qui le font, là, ça change toute l'affaire. Parce qu'il faut t'expliquer pourquoi l'auteur... Il y en a qui disent, si tu es un prédicateur de la parole ou un commentateur de la parole, si quelqu'un se rend compte... La preuve, quand on étudie, quand on lit, on ne voit pas ces choses-là parce qu'on passe trop vite. On ne réfléchit pas. On ne se souvient pas ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Mais si quelqu'un s'en souvient, comme nous autres, ça s'effraie dans notre mémoire, on arrive, on se dit, « Hein, quand tu nous as enseigné sur le tabernacle, tu nous as dit que l'autel d'or était dans le Saint. » Puis ici, c'est en train de dire qu'il était dans le Saint des Saints. Il y a deux possibilités. Ou celui qui écrit le livre, le Nouveau Testament, s'est trompé. Moi, je ne crois pas que c'est possible parce que les Écritures sont inspirées, mais après avoir été mal traduites, ça, c'est une autre affaire. Quand c'était l'encensoir d'or, on l'a vu tout à l'heure dans Lévitique 16, c'est qu'il fallait que le souverain sacrificateur, lorsqu'il entre dans la partie très sainte, qu'il amène l'encensoir d'or, de manière à ce que s'il ne faisait pas ça, on l'a vu tantôt, il mourait littéralement. Alors, l'autel d'or pour les parfums ou l'encensoir d'or symbolise l'intercession de Christ pour ses élus. Voyez-vous, moi, je pense que c'est encensoir d'or que ça aurait dû être traduit, parce qu'il y a beaucoup de versions qui disent ça, et ça explique beaucoup mieux. Sans ça, tu es obligé de dire, bon, mais d'abord, explique-moi pourquoi l'Ancien Testament dit qu'il était dans le sein des saints, puis toi, tu dis ici que c'est dans le sein. Quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas correct. C'est la preuve qu'on... Moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai... On se dit, il y a un problème, je ne l'ai même pas vu. Tu lis, tu vois un problème, mais tu ne l'as pas vu. Mais il y a toujours une façon d'expliquer les problèmes. Alors, il y avait l'autel d'or pour les parfums ou l'encensoir d'or, ça symbolise l'intercession de Christ pour ses élus. L'arche de l'Alliance, ça symbolisait l'union de la divinité avec l'humanité. Le coffre était comment? De bois d'acacia recouvert d'or. L'humanité de Jésus-Christ, était parfaitement homme, mais parfaitement Dieu en même temps, la partie du bas. Le couvert, il était d'or massif. L'or dans les Écritures représente souvent la divinité. Alors, le couvert était d'or massif, sa divinité. Le vase d'or contenant la manne. Et voyez, si on s'en va dans Jean 6, versets 31 à 52, on va y aller. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il parle de lui-même. Verset 34, et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez cru, et vous ne me croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Les Écritures enseignent que Dieu le Père a donné au Fils un nombre précis et immuable d'hommes et de femmes, et il dit qu'il va nous rendre jusqu'au bout. L'œuvre divine, quand Dieu commence quelque chose, il rend au bout. Verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Ils ne connaissaient pas son père parce que le père c'était Dieu. Mais eux, dans leur perception, c'était pas possible que Marie soit tombée enceinte, puis il pensait que son père, c'est Joseph. Alors, c'est ça qu'il disait. Il montrait leur ignorance. Il dit, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. C'est celui-là a vu le Père. Quand on parle ici, intéressant, qui nous dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que ceux qui sont des élus, ceux qui vont éventuellement recevoir le salut, qu'est-ce qui fait qu'on accepte l'Évangile ou qu'on ne l'accepte pas? C'est parce qu'on est enseigné de Dieu. Dieu ouvre notre intelligence, il nous régénère, il nous donne une nouvelle nature, il nous fait naître de nouveau. Et à cause du fait qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, maintenant on comprend et on accepte et on reçoit ce que Dieu nous propose concernant notre salut, concernant la manière dont on doit régler notre problème avec notre péché. On était rendu au verset 46, verset 47. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Je m'en sers souvent quand j'évangélise, parce que le monde dit « Oh, on ne peut pas savoir ça, quand est-ce qu'on va aller au ciel? C'est pas moyen de savoir ça. » Ouais, tu sors ta Bible, tu t'en vas là, puis tu dis, regarde ce que ça dit ici. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, ça dit-tu « aura la vie éternelle » ou ça dit « a la vie éternelle » ?» Si dit « a la vie éternelle », ça veut dire que tu l'as déjà. Dès cette terre, tu es déjà convaincu que tu as la vie éternelle. Et il y a d'autres passages. « Je suis le pain de vie », Jésus dit dans 48. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » C'est ici le pain qui descend du ciel. Il parle de lui. « Afin que celui qui en mange ne meure point. » Pas en train de dire qu'il faut manger Jésus. Tu es en train de dire, en manger, ça veut dire que tu reconnais qui il est, sa personne, tu reconnais ce qu'il a fait et tu t'en nourris. Tu sais que c'est vrai et tu ajustes ton comportement en conséquence. Et verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il donner sa chair à manger? » Après ça, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? La verge d'Aaron qui avait fleuri. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie » dans Jean 11, verset 25. On pourrait aller voir aussi le nombre 17, on n'ira pas. Il y avait aussi les tables de l'Alliance, le fameux décalogue, les fameux 10 commandements. Dans Ésaïe, chapitre 42, verset 21, « L'Éternel prenait plaisir en lui à cause de sa justice. Il magnifiait sa loi et la rendait honorable. » Quand Christ est venu sur la terre, la manière dont il a obéi à la perfection à la loi, qu'est-ce que ça l'avait pour effet? Ça le dit ici. Il magnifiait sa loi. Magnifier quelque chose. Quand on dit de quelque chose qui est magnifique, il rendait la loi de Dieu magnifique et il rendait la loi de Dieu honorable à cause de la manière dont il l'a, de la relation qu'il avait avec. Dans le psaume 40, versets 7 et 8, ici c'est Jésus qui parle. « Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Moi, si on ne fait pas le lien avec le coffre de l'Alliance, la loi de Dieu, le décalogue, est au fond de son cœur. Elle est à la partie humaine et divine de son être dans le coffre que ça symbolisait. Quand tu dis ça, là, si tu ne fais pas gloire à Dieu, je pense que tu n'as pas saisi. Le propitiatoire et les chérubins, maintenant, c'était le couvercle d'or massif de l'Arche de l'Alliance. Il y avait un couvert sur le dessus des deux anges qui se pointaient l'un vers l'autre. Symbolise la parfaite divinité de Christ. C'est sur ce couvercle que le souverain sacrificateur devait verser le sang de la victime. Romains 3, 25. C'est lui, parle de Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, deux mots qui sont là, comment tu sais, ça se retouche là, l'ancien, nouveau, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de la patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est vraiment l'idée, le propitiatoire, c'est l'idée fondamentale, c'est détourner la colère de Dieu. Christ, sur la croix, a subi la colère que Dieu aurait dû déverser sous nous en enfer pour l'éternité. Il a subi à notre place. C'est ça, détourner. Il l'a détourné. Il l'a pris à notre place. Et si on avait la moindre idée, moi c'est quelque chose, je viens de m'acheter deux livres là, sur l'enfer, je veux me replonger là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir jusqu'à quel point c'est une doctrine fondamentale des Écritures et que les gens qu'on voit autour de nous qui ne sont pas sauvés, là, ils sont suspendus juste au-dessus par un fil. Puis quand on se met à étudier ça, là, on panique littéralement. On fige. Et si on ne fige pas, c'est parce qu'on n'a pas conscience de si elle tombe, là, quand c'est coupé, quand Dieu coupe le fil, ça va en enfer pour l'éternité. Et si on avait la moindre idée jusqu'à quel point les êtres vont souffrir là-dedans, on annoncerait l'Évangile à tour de bras. On n'arrêterait pas. Le problème, c'est qu'on perd ça de vue et on a peur d'annoncer aux gens que s'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu et qu'ils décèdent dans cet état-là, c'est là que s'en vont. Et plus on est conscient de l'enfer, plus on va devenir des meilleurs évangélistes, je pense. Deuxième point, on va regarder un pédagogue vers Christ dans sa personne sur la terre. Hébreux 9, verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Dès qu'il parle, les fils de Lévi. Est-ce que le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans cette partie-là? Oui, tous les sacrificateurs. Il y avait plusieurs sacrificateurs qui faisaient tout ce service-là, pas uniquement le souverain. Les sacrificateurs, il fallait qu'ils fassent, ils changent les pains à chaque sabbat, il fallait qu'ils entretiennent le chandelier, il fallait qu'ils fassent brûler du parfum sur l'autel des parfums. C'était un service quotidien et hebdomadaire concernant la table des pains de proposition. Donc, dans la partie appelée le lieu saint, seuls les sacrificateurs de la tribu de Lévi pouvaient entrer pour s'acquitter de leurs devoirs. Certains étaient des devoirs quotidiens. Entretenir le chandelier d'or pour qu'il brûle en permanence. Ils devaient faire cela chaque matin, chaque soir. Si on retournerait dans Lévitique, tout ça, là, on verrait ça. Ils se devaient aussi de faire brûler de l'encens sur l'autel des parfums, chaque matin, chaque soir, après les sacrifices du matin et du soir. Ils se devaient aussi de s'acquitter de devoirs hebdomadaires, celui de changer les pains de proposition chaque matin de sabbat. À chaque nouveau sabbat, les pains étaient là, il fallait qu'ils les changent. Tout ça, c'est symbolique, on ne rentrera pas tant en détail là-dedans, mais c'est important de voir qu'ici, il est en train de dire que dans la partie sainte, il y avait juste les fils de Lévi, qui étaient des sacrificateurs, qui pouvaient entrer là. Mais on va voir qu'il va continuer. Maintenant, il parle de sa personne. On vient de voir sa personne sur la terre. Maintenant, il va parler de sa personne dans le ciel, dans le verset 7. Et il dit, 9, 7, et dans la seconde. De quoi il parle? Quelle partie, là? La partie, le Saint des Saints. Dans la seconde, le souverain sacrificateur seul, le mot est bien clair, les autres sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer. Il y avait uniquement une personne qui pouvait rentrer là, puis c'était pas n'importe quel temps, puis c'était pas n'importe quelle manière. Une fois par année, ça dit entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, il offrait ces fameuses choses-là pour ses propres péchés, parce qu'il était un souverain sacrificateur humain, pécheur, faible, misérable, fragile. Même chose que nous autres. C'était le privilège exclusif du souverain sacrificateur. Pourquoi on dit de Jésus qu'il est le souverain sacrificateur? Parce que c'est lui qui est rentré dans la partie très sainte. Mais lui n'a pas besoin d'un sensoir d'or parce qu'il était Dieu lui-même. C'était le privilège exclusif du souverain sacrificateur d'entrer dans le Saint des Saints pour encenser l'arche de l'Alliance et porter du sang de victime pour ses péchés et ceux du peuple. Là, c'est important d'aller dans Lévitique. Puis si on ne fait pas le lien avec l'encensoir d'or, là, on ne comprend rien. Lévitique, chapitre 16, versets 1 à 17. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Qu'est-ce qui s'était passé, les fils d'Aaron? Ils avaient offert une adoration à Dieu qui n'était pas faite selon les formes. Dieu avait permis qu'ils soient tués, qu'ils meurent. Alors ici, l'Éternel, après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel, mais pas de la bonne façon. Dans le verset 2, l'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceintera d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » Voyez-vous, il y a tout le symbolisme de laver son corps dans l'eau. C'est vraiment une question d'être pur quand tu rentres dans la présence de Dieu. Verset 5, « Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui, pour sa maison. Il prendra les deux boucs, les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. » Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui, pour sa maison, et il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra, voyez-vous, c'est ici le verset 12, il prendra un brasier. Dans certaines versions, c'est un encensoir. Si on parlait de ce que je vous ai montré tantôt. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté du dessus de devant l'autel de l'Éternel, les deux poignées de parfum d'oriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Voyez-vous, la condition, c'était qu'il rentre avec l'encensoir et qu'il fasse brûler des parfums, de façon à ce que le propitiatoire n'était pas visible à ses yeux humains. Pourquoi? Parce qu'il n'en était pas digne. Dieu disait qu'il apparaissait sur le propitiatoire. Et verset 14, il prendra du sang du taureau, il fera l'expiation avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang des taureaux, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Voyez-vous, verset 16, « C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions pour lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. » Verset 17, « Il n'y aura personne dans la tente d'assignation. » Voyez-vous, il avertissait bien le monde. « Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Jusqu'à ce qu'il en sorte, il fera l'expiation pour lui, pour sa maison, toute l'assemblée d'Israël. » Le livre de Lévitique, je n'ai pas été souvent dans des églises où on prêchait sur ce livre-là. Pourtant, quand on étudie le livre de Lévitique et on met ça en rapport avec l'œuvre de Jésus-Christ, on trouve ce livre-là extrêmement intéressant. Je l'ai étudié une fois, je l'ai tout exposé au complet, et on apprend beaucoup de choses qui nous aident à comprendre l'œuvre de Christ en étudiant ces choses-là. C'est sûr que si on voit juste les animaux, puis qu'on ne fait pas le rapport avec Christ, là, c'est qu'on voit, on voit juste du sang qui coule, puis c'est pas très intéressant. Mais si on met ça en rapport avec Jésus-Christ, c'est tellement riche, et toutes les choses que le Seigneur enseigne là-dedans nous proposent une facette ou une autre, soit de la personne ou soit de l'œuvre de Jésus-Christ, et c'est fascinant. Le troisième point qu'on va regarder, un pédagogue vers Christ dans sa singularité. Verset 8. Hébreux 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là. Qu'est-ce qu'il voulait nous montrer? Le voile n'était pas déchiré. Parce qu'à l'époque de Jésus, à l'époque où il parlait, le temple existait encore, et ce fameux rideau-là qui séparait le Saint du Saint des Saints était encore en place. Et ici, il est en train de nous montrer que c'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui voulait enseigner quelque chose par ça. Le Saint-Esprit montrait par là le voile. Tu ne rentres pas dans la partie très sainte comme ça, là, petit gars-là. C'est très dangereux pour ta peau, là. Que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. On ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu tant que Christ n'avait pas accompli son œuvre sur la terre de rédemption, de payer pour nos péchés, de résurrection. Il était maintenant. Et c'est frappant, là, quand vous lisez le Nouveau Testament, puis vous voyez dans Matthieu 28, que le voile du temple, lors de la mort de Christ, s'est déchiré de haut en bas. Imaginez-vous, 90 pieds de haut, 4 pouces d'épais. Vous essayerez de déchirer ça pour le fond, vous m'en donnez une nouvelle. Alors, tant que le premier tabernacle subsistait, la voie d'accès à la présence même de Dieu fut ouverte par la mort de Christ. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Matthieu 27, versets 50 et 51. Oh, je ne l'ai pas mis. En tout cas, c'est le passage que ça dit que Jésus, le voile du temple s'est déchiré. On va y aller. Je pensais d'avoir mis la référence dans mon texte, mais je ne l'ai pas mis. Matthieu 28. Non, 27. « Voyez-vous, au verset 50, ça dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Ça voulait dire au moment même qu'il est mort. Ça dit « Et voici, le voile du temple. » Là, il ne parle pas du voile du tabernacle, c'est le voile du temple. Parce qu'il dit dans le texte « Se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Qu'est-ce que ça nous disait? Que tant que le voile persistait, le travail de rédemption n'était pas fait. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, ça voulait dire que ce que le Père lui avait confié de sauver les âmes des hommes s'était accompli. Et le symbole de rentrer dans la présence de Dieu, qui était ce fameux gros rideau-là de 90 pieds de haut, 4 pouces d'épais, il s'est déchiré. C'est une œuvre divine. C'est Dieu lui-même qui voulait montrer que maintenant, l'accès à la partie très sainte était maintenant ouverte aux chrétiens. Hébreux 9:9, ça nous dit « C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. » Autrement dit, il est en train de nous dire « Celui qui faisait ça dans l'Ancien Testament, sa conscience ne pouvait pas devenir parfaite, ne pouvait pas avoir la conscience que tous ses péchés passés, présents et à venir étaient réglés. C'était une fois par année qu'il réglait son problème. Il réglait ses problèmes de péché une fois par année, les autres. Mais Christ, lui, à cause de la nature de ce qu'il a fait, on n'a pas besoin de recommencer ça. Parce qu'après qu'on a compris que Christ a réglé tous les problèmes, on n'a plus besoin de recommencer ce que les Juifs faisaient. Alors, ça nous dit que dans l'ancien système, ça dit que c'était une figure, un symbole pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience à lui qui rend ce culte. Le système judaïque n'amenait pas les âmes à la perfection. Comparons maintenant avec Christ, Hébreux 10, versets 1 et 2 et verset 14. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Si leur péché aurait été complètement réglé, payé, il n'y aurait pas eu besoin de recommencer toutes les années. Mais là, verset 14, et c'est là qu'il nous montre la différence avec Christ. Car par une seule offrande, laquelle? Un animal, son propre corps, sa propre personne. Il a amené, voyez-vous, ça c'est important à réaliser, là, il a amené à la perfection, pour aujourd'hui, ça dit dans le texte, pour toujours. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La différence, c'est que eux, ça réglait le problème du péché temporairement. Avec Christ, il fallait que tu abandonnes ce système-là parce que tu réalisais que tous tes péchés, passé, présent et avenir, étaient tout réglés. Il t'avait amené à la perfection. Faut que tu abandonnes ça, faut que tu lâches ça. Et le dernier point qu'on va regarder, le verset 10, sa singularité dans l'intronisation. Donc, on a vu que sa singularité était nécessaire, sa singularité dans la perfection, sa singularité dans l'intronisation. C'est quoi s'introniser? C'est placer solennellement sur le trône. C'est introduire quelque chose de manière officielle et solennelle. Quand on parle de l'intronisation d'un roi, c'est la grande cérémonie du début de son règne. Et ici, c'est ça que les Juifs fallait comprendre. Hébreux 9:10. Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances, et le mot est important de le saisir, c'était charnel. C'était pour une époque, pour un but précis, pour pointer vers Christ, pour enseigner vers Christ. Voyez-vous, ordonnance charnelle, ça dit imposer. Donc, il n'y avait pas le choix, là. Il fallait qu'il continue. Et la dernière phrase, c'est elle qui nous ouvre, qui nous pointe vers Christ. Jusqu'à une époque de réformation. Ils étaient rendus là. Il était probablement en 65 ou 66 ou 67 quand il a écrit ça. 3 ans après, le temple de Jérusalem, ils ont été attaqués par les Romains. Ils t'ont tous rasé ça. Imaginez-vous raser, bien raser, une œuvre de cette importance-là. Il fallait que les Romains voulaient détruire ça, puis pas à peu près. Mais voyez-vous, la rage des Romains de vouloir détruire ça, c'était Dieu lui-même qui permettait que ça soit rasé parce que c'était terminé. Maintenant, l'homme souverain sacrificateur, c'est plus des affaires charnelles, terrestres, sacrifices d'animaux et toutes ces choses-là qui étaient rattachées à ça. Le Messie était Jésus-Christ. C'est ça que les Juifs n'ont pas compris. Il était venu sur la terre pour accomplir parfaitement son œuvre de rédemption pour ses élus. Il était maintenant couronné, parle d'intronisation, et assis sur le trône divin. Il fallait que tu réalises, là. Il continue son œuvre d'intercession et de bénédiction des siens de là-haut. Il n'avait plus besoin de continuer. Parce que l'autre, quand il sortait, il fallait qu'il bénisse le peuple. Plus besoin de faire ça sur la terre. Tout ça fait d'en haut maintenant. Cette époque de réformation est maintenant arrivée. Le système judaïque est maintenant annulé et remplacé par un infiniment meilleur en qualité, en durabilité et en solidité. Quelles sont les applications qu'on peut faire du texte d'aujourd'hui? Je dirais, découvrons et étudions très minutieusement les types de l'Ancien Testament. Ils nous parlent tous de la glorieuse personne de Christ. C'est la clé de compréhension de l'Ancien Testament. Nous en serons richement récompensés. J'ai une grosse brique à la maison que j'ai eue en cadeau là, sur la typologie. Toutes les personnes, les choses, les événements qui pointaient vers Christ, c'est tout expliqué dans une belle grosse brique. Si tu cherches quelque chose, il faut étudier ça, là. Les types, c'est plein, il y en a plein. Mais si on fait juste lire l'Ancien Testament, qu'on ne tient pas compte que ça pointe vers Christ, la clé d'interprétation des Saintes Écritures, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Quand on lit une page, il faut toujours se demander, qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur Jésus-Christ? Toute l'Écriture nous parle de Christ. Cherchez, le Seigneur, il disait, sondez les Écritures. Vous allez me trouver, il est là, il est dedans, partout. Il est partout, mais excepté, il faut faire le lien que le Nouveau Testament explique l'Ancien. Deuxième application, nous serons aussi comblés en étudiant, bien entendu, l'antitype. Si on est béni en étudiant les types qui pointent vers Christ, si on étudie l'antitype, la personne même de Christ dans le Nouveau Testament, on va être encore plus richement, mais les deux sont nécessaires parce qu'ils se complètent mutuellement. Alors, l'antitype de tous ces enseignements de la typologie, la glorieuse personne de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Nous saisirons ainsi l'infinie grandeur de sa personne, ses richesses incompréhensibles et son amour qui surpasse toute intelligence. Quand Éphésiens nous dit ça, là, ses richesses incompréhensibles. Incompréhensibles, ça veut-tu dire qu'on ne peut pas les comprendre? Non. Ça veut dire qu'on peut les comprendre, mais jamais exhaustivement. Peu importe, si vous passez 50 ans de votre vie, vous êtes l'homme ou la femme la plus intelligente du monde, vous étudiez les Écritures toute votre vie, vous n'aurez jamais fini de découvrir la glorieuse, majestueuse, parfaite personne de Jésus-Christ. C'est l'œuvre d'une vie. Alors nous saisirons ainsi l'infinie grandeur de sa personne, ses richesses incompréhensibles, et les Écritures nous le disent, pour moi qu'il dit là, et son amour qui surpasse toute intelligence, peu importe l'intelligence que vous avez de l'amour de Christ. Les Écritures nous disent que ça dépasse, mais ça dépasse infiniment. Mes amis. Troisième, implorons le Dieu Trinitaire de nous révéler Christ dans nos lectures et dans nos méditations des Saintes Écritures, par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Alors, Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois de nous avoir encore ouvert un peu l'intelligence à la compréhension de cette glorieuse épître de l'Épître aux Hébreux, Seigneur. Elle est tellement riche. Alors, Seigneur, donne-nous de ne plus passer par-dessus des passages sans comprendre, de nous d'avoir le goût de s'acheter les outils nécessaires et de passer du temps à étudier les Saintes Écritures, parce que chaque fois qu'on le fait, on est tellement richement récompensé et notre compréhension de ta personne et de ton œuvre augmente, et ainsi, Seigneur, nous faisons de meilleurs adorateurs. Nous te demandons, Seigneur, d'augmenter notre amour des Saintes Écritures et de le faire toujours dans la prière et en cherchant la personne de Christ dans les Saintes Écritures. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.